Chapitre 8. Le scaphandre. L'équipage de la Cinderella avait accueilli avec des cris de joie et d'enthousiasme le retour de l'audacieux explorateur. Dans son court séjour à bord du yacht, René Caudal avait su se faire aimer de tous. Ouvriers et matelots avaient attendu avec angoisse le résultat de la terrible expérience. Monte Cristo lui-même avait senti son cœur princier battre un peu plus vite quand l'intrépide officier avait disparu dans l'abîme. Ce fut donc une émotion sincère qu'il éprouva en le voyant reparaître. Il courut à lui et le serra dans ses bras.
« Du champagne pour tout le monde, à la santé de Monsieur Caudal !»
dit-il à Sacripanti, qui s'inclina et transmit sans délai l'ordre du commandant.
« Et vous, mon cher héros, vous devez être affamé, je gage !»«
J'en conviens, je me sens d'humeur vorace, » répondit l'enseigne.
« Ce que c'est de nous pourtant, je me croyais positivement sûr de n'avoir été en proie à aucune surexcitation nerveuse. » Les battements réguliers de mon pouls semblaient en porter témoignage, et voici que le vide de mon estomac détruit cette illusion. Allons, allons, votre sang-froid est simplement admirable. Ne vous calomniez pas, et asseyons-nous devant le lunch que vous avez si bien gagné.
Tout en réparant ses forces, René conta à son hôte les menus faits du voyage et lui remit les spécimens qu'il avait rapportés du fond. Le prince était ravi et entrevoyait déjà toute une série de découvertes par procuration, glorieuses pour le yacht et pour lui-même. Il passa la journée devant son microscope, dans un état d'agitation fébrile qui contrastait avec le calme du jeune enseigne. Dès le lendemain, René Caudal se remit à l'œuvre, effectuant chaque jour jusqu'à 3 ou 4 descentes nouvelles, en des points relevés soigneusement et séparés par des distances de 2 à 3 000 marins. Parfois, l'état de la mer rendait l'opération impraticable. Il fallait attendre alors, et René se consumait d'impatience. Quoique ses recherches n'eussent jusque-là donné aucun résultat positif, sa conviction inébranlable était que la mystérieuse demeure sous-marine, qui l'avait abrité quelques heures ou quelques instants, inoubliable, devait se trouver entre la mer des Sargasses et l'archipel des Açores. Explorer cette vaste région, en sonder successivement toutes les parties, tel était le projet hardi, insensé, aurait dit bien des gens, qu'il avait conçu et qu'il poursuivait avec une infatigable persévérance. Ce projet, personne ne le connaissait qu'Hélène. René l'avait seul jugé capable d'admettre la réalité de son aventure. Et s'il avait eu besoin d'encouragement, c'est de ce côté qu'il l'aurait trouvé, dans la fraîche imagination de cette jeune fille, servie par un grand cœur et par une haute raison. Mais il avait mieux encore, il avait la foi, ce levier qui soulève les montagnes et triomphe des difficultés. C'est pourquoi, à travers tous les obstacles, il allait à son but. Monte Cristo commençait à s'étonner de l'acharnement que son jeune et distingué collaborateur, comme il l'appelait, non sans une nuance de fatuité protectrice, mettait à renouveler des expéditions n'aboutissant qu'à des résultats à peu près négatifs, car les bras de caoutchouc du scaphandre n'avaient ramené du fond aucune variété minérale ou animale qui ne fût déjà connue. Mais un homme entre tous voyait grandir d'heure en heure la dévorante curiosité qui le consumait. C'était Sacripanti, le commandant en second. Son âme de levantin rapace ne pouvait pas admettre que René Caudal s'exposât chaque jour à de pareils dangers pour un objet purement scientifique. Une conviction s'implantait peu à peu dans son esprit. Le jeune enseigne devait avoir des renseignements particuliers et précis sur quelques trésors immergés dans la mer des Açores. Un galion chargé de piastres et noyé depuis des siècles sous le poids de ses richesses, ou, qui sait, quelques vieux navires venus des Indes et recélant en ses flancs pourris, sous les flots, une cargaison de diamants et de rubis. Il fallait un appât de cette opulence
pour motiver l'ardeur que l'officier français mettait à plonger ainsi au fond de l'abîme. À cette idée, les yeux noirs de Sacripanti brillaient de convoitise. Sa face patibulaire s'enflammait d'avarice. Il se jurait entre ses dents blanches que, d'une manière ou d'une autre, il aurait part à l'aubaine. Sa première tentative ne fut pas précisément heureuse. Après avoir, selon sa coutume, accablé René de louanges nauséabondes sur l'héroïsme qu'il déployait en descendant sans relâche au fond de l'abîme, Sacripanti fit observer que ses expéditions seraient moins monotones si M. Caudal s'adjoignait en compagnon. « Peut-être, sans aller bien loin, » ajouta-t-il d'un air qu'il cherchait à rendre modeste et qui était seulement bas, « peut-être trouveriez-vous sur ce navire un homme dont le dévouement à la science fut à la hauteur du vôtre et qui se fit un honneur de vous servir d'élève ou même de manœuvre. » À quoi René Caudal répondit qu'il remerciait le capitaine Sacripanti de ses offres obligeantes, mais que la chambre submersible n'était établie que pour un seul passager. Battu de ce côté, le commandant en second se rejeta sur un autre plan et se mit à exciter systématiquement la jalousie du prince de Monte-Cristo. Du matin au soir, il développait cette thèse que, désormais, en matière de sondage de haut fond, il ne serait plus question dans les académies du yacht Cinderella, mais uniquement du scaphandre Caudal.
« Pourtant, le scaphandre a été construit à bord du yacht, et nous l'immergeons nous-mêmes, »
objectait Monte-Cristo.
« N'importe, » répondait Sacripanti avec des airs d'oracle.
« Votre Altesse n'a que trop d'envieux et d'ennemis dans les corps savants. Sans paraître donner d'importance à la chose, ces gens prendront à tâche de ne parler que du scaphandre Caudal. Peu à peu, le public s'habituera à en répéter le nom, et celui de la Cinderella, celui de son illustre commandant, resteront dans l'ombre, tomberont dans l'oubli. » Une telle perspective n'était pas sans inquiéter assez fort Monte-Cristo, mais il lui répugnait de l'avouer.
« C'est impossible !»
disait-il en se frappant les genoux, d'un geste qui lui était familier dans les moments d'incertitude.
« L'univers civilisé sait que j'ai inauguré en personne les sondages de haut fond de l'Atlantique, et au surplus, ce scaphandre a été construit à bord de mon yacht, il en fait partie, il en est inséparable. Je ne puis admettre qu'il serve à nous faire oublier. Eh bien, votre Altesse n'a qu'à attendre encore 2 ou 3 mois, elle verra si je me trompe. »
Sacripanti fit tant et si bien par ses insinuations qu'il parvint à inquiéter son chef.
« Enfin, que faire? À quelle partie s'arrêter ?»
demandait Monte-Cristo au comble de la perplexité.
« Je ne vois qu'un remède. Ce serait d'exiger qu'un officier du bord accompagnât M. Caudal en sa cabine quand elle descend sous les eaux. »« C'est une bonne idée. Toi, par exemple !»
s'écria le prince enthousiasmé. Puis, tout à coup s'arrêtant, frappé d'une réflexion subite.
« Ou moi-même »
ajouta-t-il.
« Pourquoi pas moi ?»
Sacripanti allégua la grandeur du prince qui l'attachait au rivage, ou tout au moins au plancher de son bon yacht. Mais Monte-Cristo était lancé, il ne fallait plus songer à l'arrêter.
« C'est clair, voilà la véritable solution, la plus simple et la bonne !»
disait-il en arpentant à grands pas le pont de l'arrière.
« Et quoi de plus juste en somme? Le scaphandre est mon œuvre et mon bien, puisqu'il n'existerait pas sans mes ateliers et sans mon yacht. Il suffit que je m'en serve personnellement à effectuer quelques sondages et que j'en donne avis au monde savant pour qu'on ne songe plus à me spolier d'un honneur qui m'appartient en propre. C'est une affaire entendue. Je m'embarque en scaphandre. »
Tout de suite, il communiqua son projet à René Caudal, qui le goûta peu et crut nécessaire d'opposer quelques objections à l'envahissement de sa cabine. Mais le prince paraissait attacher tant d'importance à la chose, il avait toujours mis tant de bonne grâce à réaliser les moindres indications du jeune enseigne, que celui-ci aurait cru montrer de l'ingratitude en ne faisant pas un effort pour se montrer généreux à son tour. Il acquiesça donc à la demande de son hôte, et il resta convenu que, dès le lendemain matin, ils opéreraient une première descente. Convaincu que cette expérience unique suffirait à guérir l'altesse de sa fantaisie, René Caudal ne changea rien au dispositif habituel de l'opération. Les choses ainsi réglées, chacun alla se coucher. « La nuit porte conseil, dit-on. Sans doute, celle du prince n'avait pas été exempte de soucis et d'inquiétudes, car le lendemain matin, quand il parut sur le pont, sa mine était hâve et déconfite. Il avait le teint d'un homme qui n'a pas fermé l'œil et ne paraissait nullement impatient de s'enfermer dans la chambre submersible. » René Caudal, sans prendre garde à cette attitude équivoque, donnait le coup d'œil du maître à tous les détails de son installation. Il avait doublé dans la cuve de Chine la provision habituelle d'eau de barite et préparé le flacon d'oxygène pour son fonctionnement normal. Il s'assurait que chaque chose était à sa place. Puis, son inspection terminée, il montrait la porte de la cabine grande ouverte en disant « Mon cher prince, quand vous voudrez !» Il n'y avait pas possibilité de reculer. Monte Cristo, plus mort que vif, en dépit d'une forte rasade de tafia qu'il venait de s'administrer, crut nécessaire d'adresser des adieux solennels à son équipage.
« Mes enfants » prononça-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. « Si les destins contraires voulaient que je ne revinsse pas de cette hasardeuse entreprise, sachez bien que ma dernière pensée a été pour vous. Je vous embrasse tous en la personne de mon fidèle Sacripanti. »
Après quoi, il appliqua deux baisers retentissants sur les joues noires du Levantin, ruisselantes de larmes venues au premier appel. Puis, d'un pas théâtral, il enjamba le seuil du scaphandre. René le suivit aussitôt, sans y mettre tant de façon. La porte fermée et calfatée sur les deux explorateurs, le prince parut se rassurer jusqu'à un certain point en voyant le calme et le silence qui régnaient dans sa prison submersible. Il s'allongea sur le sofa et attendit les événements avec résignation. Son camarade d'infortune donna l'ordre du départ. L'aiguille se mit en marche. Quand Monte Cristo vit que tout allait à souhait, le plus simplement du monde, qu'il ne sentait même pas le mouvement du scaphandre et se trouvait en 3 minutes à 200 mètres de profondeur, sa bonne humeur habituelle reprit le dessus. Il tira de sa poche un magnifique cigare et l'alluma. « Voilà une épreuve imprévue pour notre air respirable, » dit René avec un sourire.
« Quoi ? Pensez-vous qu'il y ait danger à fumer ici ?»
demanda le prince, déjà prêt à sacrifier son cigare. « Aucun autre danger, je pense, que celui de rendre notre atmosphère un peu moins pure et transparente, » répondit le jeune officier. Il avait à peine articulé ces mots qu'un craquement significatif du plancher de la cabine se fit entendre, en même temps qu'elle s'arrêtait net, avec une secousse qui renversa les deux voyageurs. Le prince, assis sur le sofa, ne pouvait être mieux placé pour soutenir sans avarie grave les conséquences de sa chute. Quant à René, il fut, au contraire, projeté avec force contre la paroi de tribord et ressentit aussitôt une vive douleur à l'épaule. Son premier soin n'en fut pas moins de sauter sur le téléphone pour crier de ne plus filer de câble, le second de chercher à reconnaître à la lumière électrique la nature de l'incident. Un coup d'œil jeté par bâbord lui expliqua tout, et l'explication était certes aussi merveilleuse qu'inattendue. Le scaphandre venait de toucher par sa base contre un dôme colossal en forte lame de cristal, qu'il avait défoncé sous son poids pour y rester fixé. Ce dôme de cristal, éclairé d'une lumière éblouissante et qui faisait pâlir celle de la lampe électrique, était, d'ailleurs, parfaitement visible dans toutes ses parties et paraissait appartenir à une serre immense, recouvrant la végétation la plus étrange et la plus luxuriante. Au loin, on le voyait se continuer par des galeries également en cristal. Toutes ces galeries, comme le dôme, semblaient avoir un double toit transparent, divisé en compartiments par des cloisons étanches, si bien que le scaphandre, en crevant le toit supérieur, n'avait ouvert à l'eau de mer qu'un caisson de quelques mètres cubes. Au-dessous de la paroi inférieure, il n'y avait point d'eau, mais une atmosphère éclatante et lumineuse, où des arbres géants, des fougères admirables, des fleurs inconnues paraissaient vivre de la vie la plus intense. Le sol de la serre sous-marine était couvert d'un sable blanc et fin, formant à perte de vue des allées se coupant en angle droit. René Caudal ne pouvait en douter. Le hasard venait de le conduire cette fois au terme de son ardente recherche. S'il avait à ce moment songé à compter les pulsations de ses artères, il les aurait trouvées singulièrement accélérées. Mais pour l'heure, il ne pensait guère à ce soin. Tout entier au spectacle qu'il avait sous les yeux, il mesurait du regard la hauteur de la forteresse épaisse et lisse contre laquelle il était venu s'abattre et dont les murailles translucides semblaient bien de force à défier l'action des éléments et des siècles. L'œil vissé, pour ainsi dire, sur l'oculaire, il buvait par tous les pores la réalité vivante et tangible qu'il avait fini par atteindre. La beauté de ces jardins qui déroulaient au loin la série interminable de leurs massifs et de leurs corbeilles fleuries aurait suffi à indiquer une demeure de demi-dieu si l'orgueilleux édifice n'avait pas parlé de lui-même. Un instant encore, et l'heureux voyageur allait avoir la vision rapide des maîtres de la serre. Au moment où il avait atterri, les jardins étaient déserts. Il se demandait, tremblant d'espérance et de joie triomphante, si rien ne viendrait les animer, quand un léger mouvement au fond d'une allée lointaine précipita les battements de son cœur. Retenant sa respiration, concentrant dans son regard toute sa puissance d'attention, il attend. Plus de doute, ce sont ses hôtes qui s'avancent vers lui. Il reconnaît le majestueux vieillard et, près de lui, marchant d'un pas souple et léger, la gracieuse Ondine. Ils étaient trop éloignés pour que René distinguât l'expression de leur visage. Mais il pouvait noter la noblesse de leur silhouette, la majesté hautaine de leur personne. Peu à peu, la distance diminuant, il retrouvait le port de tête, le front de déesse, les traits charmants qui étaient restés dans sa mémoire. Mais quoi? Venait-il vers lui? Allait-il arriver jusqu'à la paroi de cristal, constater qu'il était là, le saluer, l'accueillir peut-être? Non. Parvenu à un carrefour où plusieurs allées se rencontraient, les deux promeneurs tournèrent sur la gauche et disparurent derrière un massif de fleurs. Au même instant, une voix tonnante disait auprès de lui « L'admirable créature! Que ne donnerait-on pas pour la revoir ?» C'était la voix du prince, sorti de sa stupeur et venant, lui aussi, mettre l'œil à l'un des oculaires et prendre sa part du merveilleux spectacle. René avait complètement oublié sa présence. Cette voix formidable le ramenait à la réalité. Pourquoi le malheur avait-il voulu que Monte-Cristo se trouvât de la fête, précisément le jour où la recherche aboutissait? N'était-ce pas à mourir de dépit? D'un bond furieux, et comme pour soustraire sa découverte aux yeux indiscrets qui la profanaient, René se jeta sur le téléphone. « Allô ? Allô ? Hisse vivement ! » cria-t-il. Et presque aussitôt, le câble, grinçant sous l'effort, arracha le scaphandre à la voûte de cristal où il s'était logé. Du coup, serre magique, arbre vénérable, fleurs multicolores, allées lointaines s'effacèrent comme un rêve. Un instant encore, Monte-Cristo, toujours vissé à son oculaire, put apercevoir au loin l'éclat nacré de la lumière sous-marine, comme écrasé par la masse de l'océan noir. Puis, tout s'effaça. Le scaphandre montait toujours, et l'aiguille ne marquait plus que 180 mètres.
« Vous étiez donc bien pressé de revenir à la surface !» dit assez aigrement le prince. « Le spectacle valait pourtant la peine d'être vu, et pour mon compte, je ne manquerai pas de le revoir !»
René Caudal ne répondit rien. Mais, à peine revenu à bord, il informait le prince de Monte-Cristo que le laboratoire ne renfermait plus les éléments nécessaires à la rectification de l'air respirable dans la chambre submersible. C'était parfaitement vrai,
par la raison que l'enseigne de vaisseau venait de jeter à la mer toute la barite disponible.